temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et je vais commencer, bah oui, tout de suite, l'évocation des partageux de la commune. Et puis toujours donc avec comme fil conducteur Louise Michel. Mais en ces périodes, du reste, elle est assez discrète hein, sur cette période donc de la donc de son existence. Hein. Et puis de toute façon, dans les autres historiens, tout au moins les contemporains de l'époque, il y en a aussi très très peu de traces, hein, puisque par exemple Prosper Olivier Lissagarec, dans son Histoire de la Commune, à cette période n'en parle pas. Il commence à parler de Louise Michel au moment donc du procès. Et alors il est évident que bah oui, Louise Michel passera les médias entre guillemets, la presse. Pratiquement après ce procès devant le Conseil de guerre qui la condamne à la déportation, elle aura un vécu, une trajectoire tout à fait exemplaire entre guillemets en Nouvelle-Calédonie. Ça se revoit, disons, en filigrane dans ce film qui vient juste de sortir, hein, Louise la Rebelle. Et puis, il est bien évident qu'après 1880, là, elle va être pratiquement en tête d'affiche hein, des mouvements sociaux. Et alors, ben oui, là, nous sommes fin février, hein, juste à la fin février. Voilà ce qu'écrit Louise Michel, donc, dans La Commune. Et là, c'est pareil, aussi bien dans ses mémoires que dans la commune, il y a très très peu de passage de cette période. La France ne fut sauvée ni militairement ni révolutionnairement, mais égorgée en troupeaux par les bourgeois dégénérés. Et pourtant, l'avenir est à la révolution libératrice. Voilà, donc ça c'est pris dans ce qu'elle a écrit, hein, La Commune, paru chez Stock en 1898. Alors, On est donc au mois fin février, et alors il a été donc décidé et imposé par les représentants de l'Empire allemand, parce que ça y est, c'est l'Empire allemand, que tant que les ratifications des préliminaires de paix ne seront pas signées, l'armée allemande occupera Paris. Alors, l'occupation, en fait, bah, en gros, c'est les Champs-Élysées, pas plus, hein. Puis ça va pas durer très longtemps. Et alors, bah, y en a qui sont pour virer les Allemands de Paris, s'affronter directement. Et puis, avec en réfléchissant, on se dit, bah, de toute façon, c'est tout à fait ce qu'Adolphe Thiers fait. Attends, c'est de faire faire le sale boulot par l'armée allemande. Ça y évitera de le faire lui. Et alors, après réflexion, il est donc décidé de ne pas s'opposer à l'occupation temporaire d'une partie de Paris, et notamment les Champs-Élysées, par l'armée allemande. Et le comité central, donc de la garde nationale, va placarder une affiche. La garde nationale, de concert avec l'armée, formée en cordon tout autour, veillera à ce que l'ennemi, ainsi isolé, sur un sol qui ne sera plus notre ville, ne puisse en aucune façon communiquer avec les parties retranchées de Paris. Le comité central engage la garde nationale à prêter son concours à l'exécution des mesures nécessaires à ce but et à éviter toute agression qui serait le renversement immédiat de la République. Alors là, on se rend compte, mais en fait, ça n'a pas dû vraiment se passer comme ça, puisque la troupe, l'armée de métier était sur un secteur et la garde nationale était sur un autre secteur. Évidemment, pour éviter la fraternisation. Et alors, voilà ce qu'écrit Louise Michel. L'armée se retira sur la rive gauche. La garde nationale, seule, sans trouble, sans provocation, sans faiblesse, exécuta son programme. L'armée se retira. Voilà. Et alors, pour certains, il y a eu un mélange. Alors, évidemment, il a été utilisé pour faire une barrière, les caissons, donc, ou le matériel de l'armée de métier. Et derrière, donc, en humain, il a été donc la garde nationale. Alors, on ne peut pas trop savoir exactement comment ça s'est passé, mais pour moi, il me semble que la garde nationale n'a pas du tout. Était mêlé avec l'armée de métier, justement pour éviter cette fraternisation qui commençait donc depuis la mi-février. Alors on va arriver au mercredi 1er mars 1871, 1h du matin, 4000 personnes quittent le club de la Marseillaise. Alors en principe les réunions sont interdites, mais bon, et il a été décidé de garder les canons qui avaient été amenés place des Vosges et de s'emparer de l'hôtel de ville. Et puis donc, la Marseillaise est rue de Flandre, hein, et donc en quittant, eh bien, on passe devant le dépôt de munitions de la rue de Flandre, et il est pillé. Il est récupéré donc sous la conduite de Darras. Alors ce Darras, on le retrouvera pas dans la commune. Il y a eu aussi une tentative de prendre une mitrailleuse de l'armée qui défend la préfecture de police, et là, bien, ça échoue. Le jour se lève, hein, puisqu'on arrive quand même, les heures avancent. Le 254e bataillon de la garde nationale s'empare des fusils et des cartouches de la garde de l'Est. Les canons saisis par la garde nationale sont hissés sur la butte Montmartre dans la journée. Donc c'est à partir du 1er mars qu'on a commencé donc à retirer les canons de façon à ce que les Allemands ne les prennent pas. Guillaume Ier va être reçu par l'armée allemande, et ça c'est à Longchamp. Et puis, le lieutenant Colomb, des hussards de la mort, suivi de 6 cavaliers, allemands bien sûr, franchit la porte Maillot, et puis derrière, donc, suivent les fantassiens, à pied, commandés par le général von Kameck. Et là, c'est l'entrée dans Paris. À 11h du matin, 30 000 soldats sont sur les Champs-Élysées, et ils vont camper, ou vont être logés dans les administrations et encore chez l'habitant, donc de ce qui touche les Champs-Élysées. L'occupation est bornée par la Seine, la place de la Concorde, la rue Boissy-d'Andelas, le faubourg Saint-Honoré et l'avenue des Ternes. Donc on voit, c'est relativement restreint. L'armée française est censée garder une première ligne, donc ils vont mettre du matériel, mais je ne crois pas qu'il y avait des soldats. La seconde ligne, donc, étant occupée par les gardes nationaux. Alors Paris, ça a été décidé, est en deuil. Pas de journaux. En principe, pas de lumière la nuit. Les mairies vont hisser un drapeau noir, enfin certaines. Les statues de la place de la Concorde sont recouvertes de voiles noires, en signe de deuil. Et puis, la vie continue, hein, et Eugène Verlin va demander que les militants ouvriers donc lui c'est les chambres fédérales, fassent leur possible pour se faire nommer délégué dans leur compagnie et pour siéger ainsi au comité central de la garde nationale. On va à Bordeaux. Donc les députés sont réunis à Bordeaux. L'Assemblée nationale ratifie aussitôt les préliminaires de paix. 546 voix pour, il y en a 107 contre. Et alors, c'est intéressant de voir qui a voté contre. Alors évidemment, ceux qui étaient concernés, hein, oui, les Alsaciens-Lorrains, bien sûr. Mais Paris, 34 députés de Paris sur les 43 vont voter contre. Donc il n'y en a que 9 qui votent pour ces préliminaires de paix. Le député maire de Strasbourg proteste contre l'annexion. Thiers lui coupe la parole. Pas de bavardage. Puis il reprend. Ne nous donnez pas des paroles. Donnez-nous des moyens. Et alors Tirard qui est qui a été élu maire de Paris, puis évidemment député, mais maire du second arrondissement, Pierre Tirard, répond à Thiers. Vous demandez les moyens, on peut vous les indiquer. La levée en masse que les 750 représentants se mettent à la tête de la France et vous sauverez la France. Que la France tout entière se soulève. Et ça, c'est pris dans le journal officiel, donc daté du 4 mars. Alors c'est le journal officiel qui restera à Versailles, hein, celui-là. Jules Grosjean, député du Haut-Rhin, lit la protestation des députés alsaciens et lorrains. Puis ça se termine comme ça. Nous déclarons encore une fois, nul et non avenu, un pacte qui dispose de nous sans notre consentement. Et Thiers réplique, il faut avoir le courage de son malheur. Brandberger, député de Metz, un traité honteux qu'un seul homme aurait dû signer, Napoléon III, dont le nom mérite d'être cloué au pilori de l'histoire. Et Thiers reprend en faisant aussitôt voter la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie. Alors ça avait été quand même décidé le 4 septembre, hein, mais on voit que Adolphe Thiers le fait confirmer donc par cette nouvelle assemblée. Et alors, au motif que cette dynastie est déclarée responsable de la ruine de l'invasion, du démembrement de la France. Eh bien, il y en a juste 6 qui vont voter contre. Pourtant, il y avait des bonapartistes hein, dans cette assemblée. Eh bien, il n'y en a que 6 qui vont voter contre. Clémenceau, élu député de Montmartre, présente une demande du club positiviste. Et alors, voilà ce qui est demandé. En représailles contre le pays d'origine des Bonapartes, demande la séparation de la France d'avec la Corse. Voilà, ça, c'est Clémenceau, voilà. Alors, le club positiviste en voulait particulièrement à Napoléon, hein, puisque c'est ce club qui mandatera l'ingénieur Iribe pour abattre la colonne Vendôme, donc le 5 mai. Et pourquoi le 5 mai 1871, et surtout le 5 mai? Eh bien, c'est que c'est le jour anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier. Le renversement effectif de la dite colonne, c'est-à-dire le coucher à terre avec la statue qui la surmonte, moins le piédestal qui sera détruit par la commune. Alors, ça se passera pas le 5 mai, hein, parce qu'il va y avoir des atermoiements. On va coller ça sur la tronche à Courbet. On voit que Courbet, s'était impliqué donc dans la démolition le déboulonnage, hein, puisque le mot est inventé par lui, déboulonnage. Donc de récupérer les plaques de bronze, déjà pour les mettre au musée des Invalides, musée de l'armée, ou éventuellement fondre des pièces de monnaie. Mais c'est pas du tout l'idée de Courbet, ce n'était pas ça. Et en plus de ça, cette idée part du 6 septembre ce gouvernement de la Défense nationale qui était, disons, relativement en accord avec Courbet sur cette histoire de colonne Vendôme. Hein. Et alors, pour revenir, ce projet de traité donne à l'Allemagne toute l'Alsace, moins quelques kilomètres entourant Belfort et la ville de Dasle, une grande partie des départements de la Moselle et de la Meurthe, une petite partie des Vosges, les forteresses de Metz, Strasbourg, Schellstadt, Neubrissac, Falsbourg, Bitche et Marsal. La France cède donc en gros 4 départements, hein, soit 15 166 km², et surtout des mines de fer, 1763 communes sur les 37 510 que comportait la France à cette époque, et aussi, surtout, 1 590 500 habitants, sur les 38 067 094 qui venaient donc du dernier recensement. L'ennemi occupe aussi 43 départements français. 400 000 soldats français sont prisonniers en Allemagne. 100 000 sont internés en Suisse. Alors, ça discute quand même. Gambetta, Et les autres députés, donc des trois départements qui sont annexés, quittent l'Assemblée puisque ils perdent leur mandat. Gambetta annonce sa démission avec un discours très intéressant, ou tout au moins très qui va être en avance sur son temps, en quelque sorte, puisqu'il développe pour la première fois l'idée de revanche. Donc on voit pratiquement, c'est à peine décidé, qu'on prépare déjà une guerre pour récupérer donc ces trois départements. Et Jules Ferry est alors son seul ami, tiens, comme par hasard. Gambetta écrit une lettre à Adolphe Bradley, le résultat du vote, et voilà ce que Gambetta écrit. Pour moi, je suis brisé de toutes les infamies qui nous accablent. J'ai opté pour Strasbourg, puisqu'il avait été élu dans plusieurs circonscriptions. Et devant l'odieuse cession que l'Assemblée vient de consentir à l'ennemi, je me retire. J'attends que la France républicaine se retrouve. Mais Gambetta est quand même un fieffé politicien, puisque là, il va jouer les victimes, se rendant compte que ça va quand même pas durer très très longtemps, et il va bien revenir très très vite sur le devant de la scène politicienne, le Gambetta. Thiers, de son côté, lui aurait demandé de quitter Bordeaux pour éviter des manifestations. Et puis, suite à ce vote, Rochefort, Ranc, Benoît Ballon et Tridon démissionnent de l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sont les députés de Paris. Le comte ultra-clérical, le comte de Lavedan, qui signait Philippe de Grandlieu dans le Figaro, va écrire dans le numéro du Figaro du 25 mai 1899 sur ce qui s'est passé. « Monsieur Thiers m'a dit en 1871 à Bordeaux une parole terrible dont je ne me suis jamais souvenu sans un frisson de révolte. Nous causions des conditions de la paix. 5 milliards et 2 provinces, me dit-il. C'est dur. J'aimerais mieux abandonner 2 autres provinces et garder les 5 milliards. Et comme je protestais contre un pareil langage, Thiers répond, les provinces, on les reprend un jour ou l'autre, tandis que les milliards partis ne reviennent jamais. Donc on est bien dans cette idée de revanche et surtout de cette affaire, de cette idée qui va faire ciment fédérateur autour de cette république issue de briques et de broc, parce que en fait, il y a des bonapartistes qui vont venir dedans, et puis là, c'est surtout des républicains orléanistes, donc des monarchistes républicains. C'est quand même assez curieux, puisque Adolphe Thiers se vante d'être, et de toute façon, il l'est, d'être monarchiste orléaniste. Donc, ce qui va réussir à couvrir tout cela, jusqu'à la guerre de 1914, ça va être cette idée de revanche. C'est d'aller reprendre, donc, ces deux provinces, ces trois départements. Et puis aussi de laver l'honneur de l'armée dans le sang des soldats, bien sûr. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1914, avec cette idée donc de revanche qui va éluder tous les problèmes sociaux qui se posent, surtout après les idées qui ont été lancées donc par les mouvements communalistes et plus particulièrement la commune de Paris. Et alors, Bismarck va recevoir donc à Versailles l'avis de l'acceptation par dépêche télégraphique. Il est 22h15. Vallès signe dans le Cri du Peuple, qui paraît encadré de noir. Je crois qu'il y en aura deux qui vont paraître encadrés de noir du Cri du Peuple. Quand ils seront là. Et alors là, Vallès déconseille de manifester contre l'entrée des Allemands dans Paris pour éviter un bain de sang. Le Cri du Peuple, comme les autres journaux, cessera de paraître pendant l'occupation prussienne, tout en se conservant le devoir et tout en se réservant le droit de parler, s'il le croit utile, à la Révolution. Le 2 mars, nous sommes un jeudi, Delaroche-Vernet, secrétaire d'Adolphe Thiers, arrive à Paris par le train, porteur donc de l'acte officiel de la ratification des préliminaires de paix. Il est confié à Jules Favre qui file aussitôt à Versailles, pour les donner donc de main propre à Bismarck. L'occupation de Paris doit donc cesser. Alors, ça s'arrête donc à la place de la Concorde, mais quand même, pour essayer de civiliser ces barbares, entre guillemets, on a autorisé aux soldats allemands d'aaller visiter le musée du Louvre. Alors, le musée du Louvre, pratiquement est occupé, entre guillemets, tout à fait pacifiquement, par des paire-dieux, chaque soldat a une paire-dieux, qui regarde les sculptures ou les tableaux, voilà. Alors donc, pendant que les soldats sont au musée du Louvre, bien Bismarck est obligé de décommander le défilé militaire, donc officiel, du lendemain sur les Champs-Élysées. Donc Guillaume Ier, empereur d'Allemagne, qui vient d'être sacré empereur d'Allemagne à Versailles, ne pourra pas faire une descente triomphale des Champs-Élysées, puisque ça y est, c'est fini, il a le bout de papier en main. Les préliminaires de paix ont été acceptés par les députés que les Allemands ont obligé donc à élire. Et oui, ils voulaient donc des représentants légitimes, légaux, donc il y a eu des élections, et les députés donc ont voté. 3 mars, nous sommes vendredi. C'est le 168e jour de siège, et le dernier soldat allemand quittant Paris passe sous l'Arc de Triomphe. Il est 10h30. Il est protégé de la foule par un peloton de gendarmes français qui bloque aussitôt les portes de Paris pour interdire tout acte de représailles de la population, donc contre les occupants, pour les aider donc à quitter Paris un peu plus vite. Le café Dupont, qui était à l'angle de l'avenue Montaigne, donc des Champs-Élysées, qui avaient servi les Allemands, et saccagé. Et puis il y a aussi des fagots qui sont brûlés pour purifier l'air, symboliquement, comme lors des grandes épidémies. Et Maxime Ducamp va le dire, lui, son autre point de vue. Brûlé sur la place de l'Étoile, le fumier laissé par les chevaux allemands. À la Bastille, donc de l'autre côté de Paris, hein, bah oui, là on est dans le Paris des affaires, hein, puisque bon, et oui, la place du Château d'Eau qui est devenue la place de la République avec ses statues de Maurice, est la frontière entre le Paris des affaires et le Paris ouvrier, hein, ça se voit beaucoup moins à l'heure actuelle, puisque en fait, c'est Paris bobo contre Paris bobo aussi, donc ça va très bien, mais encore à l'époque, et au temps donc de 1889, c'était tout à fait marqué cette frontière. Hein, par cette place de la République. Hein. Donc d'un côté la République bourgeoise, de l'autre côté la République des producteurs. Hein, voilà. Et alors à la Bastille, hein, eh ben, les manifestations donc continuent, et surtout les actes de fraternisation entre les soldats qui sont là pour maintenir l'ordre et les gardes nationaux qui sont là pour manifester. Hein. 4 canons sont pris au rempart du premier secteur, c'est à Charonne. 2000 fusils appartenant aux soldats qui sont soignés à l'hôpital Saint-Antoine sont récupérés. La poudrière du bastion 89, qui se situait entre les routes d'Ivry et de Choisy, donc sont prises. Au troisième secteur, à la Villette, 29 obusiers à armes lisses sont pris. Alors, les trucs à armes lisses, hein, en principe, ça date d'avant 1850, hein, puisqu'avec cette révolution dans l'artillerie, tous les engins qui servent à projeter, à envoyer des projectiles, sont à armes rayées, c'est-à-dire que la balle, l'obus, a une... disons à une rotation, on donne une rotation au moment donc du tir pour c'est une astuce qui permet donc de pouvoir stabiliser le tir et surtout de pouvoir être répétitif, puisque avant ça partait dans tous les sens, alors que là un coup c'est trop court, un coup c'est trop long, on tire entre les deux et ça y est, c'est gagné, et puis après le tir est ajusté. Voilà, ça c'est la grosse révolution, et ça permet aussi surtout de ne plus avoir des tirs tendus, mais avoir des tirs donc avec une trajectoire semi-circulaire, ce qui permet ça rend tout à fait obsolète les remparts style Vauban qui jusqu'en les remparts de Paris notamment, hein, les fortifications donc décidées par Adolphe Thiers avant 1848 sont sur le style Vauban, donc qui protègent contre les tirs tendus et non pas les tirs avec cette toute nouvelle artillerie. Et alors, on continue. Le poste des gardiens de la paix des Gobelins est pris d'assaut par donc les manifestants. Des chasse-pots vont être récupérés. Jules Favre menace de démissionner si Thiers ne revient pas à Paris. Ben oui, Jules Favre est à Paris et là, il a peur. Hein. Et voilà ce qu'il dit. Si Paris ne s'est pas abîmé dans l'anarchie, c'est que vraiment, il s'est tenu tout seul. Alors évidemment... on voit que chacun donne un sens tout à fait particulier au mot anarchie. Et alors, l'anarchie, on peut aussi considérer que, contrairement à ce que pense Jules Favre, hein, donc le bordel, le désordre, L'anarchie, selon Proudhon, par exemple, c'est l'ordre sans le pouvoir. Voilà. Alors évidemment, c'est bon, mais ça pose encore des problèmes, ça, l'ordre sans le pouvoir, puisque les personnes qui prétendent avoir un petit peu de pouvoir considèrent qu'à partir du moment où on leur retire ce pouvoir, ça va être le désordre. Mais bon, c'est chacun son opinion là-dessus. On va pas jouer sur les mots. Et puis c'est la deuxième réunion officielle des délégués de la garde nationale. Elle est présidée donc cette fois-ci par Bergeret et non plus par Courty. Et c'est la constitution donc de la Fédération républicaine de la garde nationale. Arnold fait le rapport d'activité depuis le 24 février, la première réunion, et une commission exécutive provisoire de 31 membres est désignée. Et alors dedans on trouve notamment Allavoine, Arnold, Bergeret, Lacord, Maljournal, Austin, Pindy, Varlin et Viard. Donc on trouve là 9 noms qu'on va retrouver donc élus délégués à la commune. Ça représente pratiquement un tiers donc de cette commission exécutive. Et alors voilà quelques passages. Hein. Le comité central n'est pas une assemblée de factieux. Il est la réunion d'hommes libres qui connaissent leurs droits et leurs devoirs, qui veulent les affirmer et se constituer définitivement de façon à remplir leurs devoirs et aussi à maintenir et défendre leurs droits. Et alors, il a aussi voté des statuts donc de la Fédération de la Garde nationale. Le comité va s'installer rue Saint-Maur et puis rejoindra plus tard la place de la Corderie, donc avec les chambres fédérales ouvrières, et puis l'Association internationale des travailleurs. Donc évidemment, la place de la Corderie, là, y a des confusions, hein, parce que quand on dit la Corderie a dit, on ne sait pas qui a dit, parce que il y avait 3 ou 4 groupes, disons pas antagonistes, non, on ne peut pas dire ça, mais avec des idées ou des buts relativement quand même différents. Et alors, il est proposé donc de constituer Paris en république indépendante, pour répondre au projet de Thiers d'établir la capitale à Versailles. Et donc, la Versailles capitale, ça sera voté le 10 mars par les députés qui sont à Bordeaux. Ils avaient proposé Fontainebleau aussi, pourquoi pas. Thiers nomme Dorel de Paladine commandant supérieur des gardes nationales de la Seine. Alors en fait, il fait que confirmer, hein, puisque Dorel de Paladine avait remplacé le 16 février Clément Thomas, qui venait de démissionner donc du commandement de la garde nationale. Alors ce Dorel de Paladine, évidemment, pose problème, puisqu'il est considéré, à juste raison, comme responsable des désastres de l'armée de la Loire. Et alors, il va arriver à Paris que le 4 mars, hein, parce que Thiers, en fait, s'en débarrasse. Il avait été élu député, bien sûr, et il voulait surtout prendre part au débat de l'Assemblée de Bordeaux et surtout voter ses préliminaires de paix, bien sûr, puisque là, c'est une paix honteuse, une paix à tout prix. Au cherche-midi, le conseil de guerre commence à juger les insurgés du 31 octobre. Alors, il y a Jatelard, il y a Vallès, Ranvier, Eudes, Boer, Régère, Maurice Joly qui se présentent. Blanqui, Florence et Cyril sont absents. Millière, Tridon et Razois, eux, sont couverts par leur immunité de député, puisqu'ils viennent d'être élus députés. Samedi 4 mars. Je donne les jours, puisque en général, les historiens dits officiels oublient de donner le jour. Et en général, les mouvements, ça se prépare le samedi et ça se concrétise le dimanche. Hein. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc samedi 4 mars 1871, bien sûr, le comité fédéral républicain fusionne avec le comité central donc de la garde nationale. Le crédit du comité central de la garde nationale, donc, qui a encore ce nom-là, monte dans l'opinion publique et il supplante celui des députés de l'Assemblée de Bordeaux. On est à Paris, les autres sont à Bordeaux. Et donc, ce comité central va signer une affiche rouge, c'est la deuxième, qui annonce la formation donc du comité central de la Fédération républicaine des gardes nationaux. Mais bon, ça va évoluer le titre, hein. À la garde nationale revenait le droit et le devoir de protéger, de défendre ses foyers menacés. Alors là, on revient donc à cette milice bourgeoise hein, qui a été fondée en 1789. Hein. Et puis ça continue. Levée tout entière spontanée. Le droit, elle seule, par son attitude, a su faire de l'occupation prussienne une humiliation pour le vainqueur. La réunion de mandataires d'hommes libres qui connaissent leurs devoirs, affirment leurs droits et veulent fonder la solidarité entre tous les membres de la garde nationale. La caserne de la rue Mouffetard est évacuée par la garde républicaine qui se replie ou va se protéger sur celle de la rue de Tournon. Et là, ils vont être rejoints aussi par les gardiens de la paix du 6e arrondissement. Le quartier général du 9e secteur, donc c'est Italie, rejoint lui la rue d'Ulm pour protéger le Luxembourg. Thiers, donc sur Dorel de Paladine qui arrive à Paris, voilà ce qu'il déclare. Le brave général Dorel de Paladine, que je leur avais envoyé comme commandant en chef, s'aperçut bientôt à l'état-major d'une chose singulière. C'est que les bataillons de service de la garde nationale obéissaient à une autorité autre que la sienne. Alors, la Thiers commence à prendre conscience que les gardes nationaux élisent librement leur chef. Voilà. Alors là, il y a un choc. Rochefort, dans le mot d'ordre de Vermersch, écrit sur Dorel de Paladine, « Voilà l'homme que nous envoie d'un commun accord les réactions légitimistes, orléanistes et surtout cléricales. » Cluseret, qui sera nommé délégué à la guerre par la Commune le 3 avril, mais qui ne va pas rester très longtemps, télégraphie de Bordeaux vers Paris. Faites-vous respecter en arrêtant et en mettant en accusation l'homme coupable qui, après avoir aidé à faire le coup d'État, trahit une seconde fois la France en livrant l'armée de la Loire. Il n'y a pas d'honnête homme en France qui puisse servir sous les ordres d'un paladine. L'appel est entendu, puisque seuls 30 chefs de bataillon de la garde nationale, sur les 260 en principe, vont répondre à la convocation de Dorel de Paladine. Donc évidemment, pour leur remonter les bretelles, mais il n'y en a qu'une trentaine qui vont venir. La démobilisation des soldats entraîne la réorganisation des régiments. Mais pratiquement, ça ne peut se faire qu'à Paris. Donc les soldats de province, qui étaient en garnison en province, sont quasiment obligés de passer par Paris. Et puis ils retournent chez eux. Mais il y en a qui vont rester à Paris. Et puis avec leurs fusils, ils vont rester à Paris, ils vont fraterniser, évidemment. Thiers active l'évacuation donc de l'armée de Paris, qui commence à fraterniser. Mais évidemment, il y a cette clause de l'armistice qui l'empêche de la remplacer par celle de province, qui ne connaissant pas les Parisiens, puis ayant aussi des comptes à régler, parce que entre Paris et la province, le pouvoir s'est toujours bien débrouillé pour faire déclencher des animosités. Donc Bismarck va autoriser ce 4 mars la venue pour les 8 et 9 mars de 30 000 soldats triés à la fourchette, donc on voit à peu près. Et dans son discours du 1er mars, Thiers avait déclaré « Sachez-le bien, on n'improvise pas des armées ». Mais là, on voit qu'il est en train d'en improviser une pour garder Paris. Et alors, voilà ce qu'écrit Maxime Ducamp, toujours dans les convolutions de Paris. On raconte que, vers cette époque, M. Saint-Marc de Girardin fit une démarche auprès de son vieil ami, M. Thiers, afin d'obtenir quelques éclaircissements sur la conduite que le ministère tenait tenir dans cette circonstance. Et voilà ce que déclare Saint-Marc de Girardin. « J'ai vu M. Thiers. Il ne sait pas ce qu'il veut. » Mais il le veut énergiquement. Effectivement, Thiers télégraphie à Vinoy sur les soldats, qui les 30 000 qui renvoient de province là, vers Paris. Ne les jetez pas dans le sein de la population. Établissez-les à l'école militaire, au Champ de Mars, aux Invalides, dans les Tuileries, bien fermés. Les tapageurs vont se diviser, se fatiguer, et pendant ce temps, nos renforts arriveront. Vinoy va donner la liste et la composition des dépôts clandestins d'armes. Donc il a relevé 20 canons sur la barricade de la rue Legendre. Donc on se rend compte qu'il y a déjà une barricade dans Paris. 42 canons de 7 place d'Aligre. Une batterie place Jeanne d'Arc. Des barils de poudre rue des Envierges. On retourne à Bordeaux. Thiers fait courir le bruit d'une insurrection à Paris. L'Assemblée, croyant à Panthière quand même, va envoyer 4 députés maires. Donc il y a Arnaud de l'Ariège, il y a Clémenceau, Henri Martin, Tirard. Ils arrivent à Paris et voilà ce qu'ils écrivent. Ils trouvent Paris absolument calme. À Bordeaux, Picard, qui est ministre de l'Intérieur, répond « Cette tranquillité n'est qu'apparente, il faut agir ». Et alors, Vautrin, qui est maire du 4e arrondissement à Paris, renchérit, il faut saisir le taureau par les cornes, arrêter le comité central. Et le lendemain, Jules Ferry rassurera Jules Simon, Jamais dimanche ne fut plus calme. La population jouit du soleil et de la promenade, comme si rien ne s'était passé. Et ce dimanche 5 mars, 2400 soldats de la brigade BIC du Mans arrive par la ligne de l'Ouest, donc à la gare Montparnasse. Il y a aussi une manifestation devant la prison Sainte-Pélagie. Et ça va avoir pour conséquence que Cérizier est relâché. Il avait été incarcéré donc pour sa participation à l'émeute du 22 janvier 1871. La garde nationale, donc qui garde le parc d'artillerie de la place des Vosges, est renforcée. C'est que le comité central craint une reprise des canons par Vinoy. Voilà ce qu'écrit Louise Michel. On n'obéissait plus. Les canons de la place des Vosges, qu'envoyait prendre le gouvernement par des artilleurs, sont refusés sans qu'ils osent insister et sont traînés au but de Chaumont. Donc on met les canons sur les hauteurs, puisque là c'est les canons qui sont traînés et non pas les soldats qui viennent chercher les canons. Lundi 6 mars, les mobiles de l'Hérault, qui sont démobilisés, se débandent à l'opéra en rejoignant la gare de Lyon. Ah oui, ils vont d'une gare à l'autre et en fait, ils sont en défilé. Et puis au niveau de l'opéra, qui est pas fini de construire, l'opéra, finalement, si on restait à Paris, ça serait pas si mal. Et puis ce lundi 6 mars, c'est l'apparition du premier numéro du Père Duchesne. Il est tiré à 30 000 exemplaires. Rien que pour Paris, 30 000 exemplaires pour un quotidien. Aussitôt épuisé, retiré à 25 000 exemplaires. Épuisés d'eux-mêmes. Donc pratiquement en l'espace d'une journée, 55 000 exemplaires du Père Duchesne ont été vendus. Les rédacteurs, mais qui ne signent pas, Humbert, Vermerch, Williaume. Alors évidemment, le Père Duchesne va passer dans la fournée donc du 11 mars. Les six journaux supprimés par Vinoy. Donc il est supprimé au numéro 5, le 11 mars, et il reparaîtra donc avec le numéro 6 à partir du 23 mars 1871. Mais évidemment à Paris, puisque la commune, ça y est, est établie du fait de la vacance du gouvernement dit officiel. Et alors, le Père Duchesne, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui écrit, Humbert, Vermerch, Williaume. Donc le Père Duchesne écrit dans ce premier numéro: « Ce n'est pas assez d'avoir supporté la faim, d'avoir versé son sang, d'avoir bu sa honte. Il nous reste 3 termes à payer. Depuis plus de 6 mois, nous ne faisons rien, nous ne vendons rien. Avec quoi paierons-nous les 3 termes? Nous ne les paierons pas, nous ne les paierons pas. » Et alors, les analyses sont quand même très très fines du Père Duchesne, puisque la première mesure que va voter donc l'Assemblée nationale, dès qu'elle va être établie à Versailles, c'est l'obligation donc de payer les échéances. Et oui. On peut prendre le Cri du Peuple, qui est aussi un quotidien, et puis pratiquement ils vont tirer autant d'exemplaires, le Cri du Peuple, le Père Duchesne. Maintenant que la guerre est finie, du moins que la paix est signée, les escamoteurs des libertés publiques et les faiseurs de coups d'État ont peut-être peur des tièdes comme des ardents. Et puis ce lundi 6 mars 1871, les Allemands, c'est signé, libère Napoléon III, qui rejoint aussitôt l'impératrice Eugénie et son fils à Schillershurst en Angleterre. Et donc Napoléon III mourra à Camden Place le 9 janvier 1873. Mardi 7 mars, les soldats continuent à arriver à Paris. 2105 par la ligne d'Orléans, 3000 par là, toujours d'Orléans, qui viennent de l'armée de la Loire. Il y en a 6600 qui viennent du Havre, 7500 de Valogne. Alors donc, on va les trier. Alors les douteux, on va les renvoyer dans leur campagne. Les têtes brûlées, ceux qui ont vraiment envie de casser du Parisien, on va les garder à Paris, bien sûr. C'est ce qui va faire l'armée versaillaise. Dorel de Paladine impose les devoirs de la garde nationale. Et voilà, ça commence comme ça, il y en a toute une page. Le premier de tous, les devoirs, est d'assurer le maintien de l'ordre et le respect des lois et de la propriété. Eh oui, c'est une milice bourgeoise. J'ai la ferme volonté de réprimer avec énergie tout ce qui pourrait porter atteinte à la tranquillité de la cité. Et alors, Georges Arnold répondra le 10 mars devant le comité central de la garde nationale, ses sangs rougeurs au front, que ce général déshonoré ne craint pas de signaler son arrivée par une proclamation audacieuse dont tous les termes sont une menace. On peut prendre ce qu'écrit Jules Vallès dans Le Cri du Peuple. La France frémit en ce moment d'une de ces crises qui emporte ou sauve celle qu'elle secoue. Depuis qu'elle bat du pied la terre pour en faire sortir des armées qui, hier, ont été vaincues et des idées qui ne le sont jamais, elle ne s'est trouvée jamais placée sur un aussi haut calvaire et jamais les clous n'ont été fournis par tant de Judas ni enfoncés par tant de bourreaux. Alors bah oui, Jules Vallès fait sa crise christique, hein, comme on peut dire. Et alors, très curieusement, toujours dans Le Cri du Peuple, hein, mais c'est celui du 21 mai, pour son ultime éditorial, Pierre Denis, que certains, notamment Rochefort, accusent d'autonomiser à outrance, hein, Le Cri du Peuple, hein, Pierre Denis Proudhonien, fera la même référence donc à la crucifixion. Et voilà, donc c'est le 21 mai 1871, hein, l'édito du Cri du Peuple, consummatum est. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas le latin, le crime est perpétré, la passion est achevée. C'est le dernier mot de la passion, le cri poussé devant le Messie des Juifs, étendu par eux sur la croix et expirant dans la douleur. Voilà. Et alors, bah oui, c'est du Pierre Denis et c'était dans Le Cri du Peuple. Le 10e bataillon des mobiles de la Seine se mutine et séquestre son commandant. Et en fait, bah, ça sera le comité de la garde nationale qui va se débrouiller à le faire libérer. Eh bien, on va essayer de mettre un petit peu de musique pour souffler. Voilà. On va peut-être y arriver. Ça devrait partir dans pas longtemps. Oui. Voilà.
Décoré de tes dessins d'enfant sur des bancs où tu seras fier de t'asseoir. Comme se sont assis tes aînés quand nos aînés n'y seront plus. On t'apprendra l'obéissance, on t'apprendra la transparence, on te rendra inodore, incolore, insipide, insonore et stupide. On t'apprendra le code de la route, à voter, oui, une fois pour toutes, à voter, oui, à voter, non. À voter, à faire ton devoir du dimanche. Tu deviendras celui qui rampe, on éteindra ta lampe et tu parleras au nom des autres. Tu diras nous. Tu diras, nous voulons. Tu ne diras plus jamais, moi. Tu parleras très fort, tu marcheras quand même sous la botte ferrée d'un cabot militaire. Puisqu'il faut le faire, ou bien tu te feras réformer et tu le diras très fort en riant comme une conne. Je les ai bien nus, je les ai bien nus, comme si c'était possible. Tu seras de la majorité ou tu seras de l'opposition. Tu suivras les consignes. Tu seras pour ou contre. Et quand tu l'auras dit, t'ira t'asseoir devant ta soupe, avant qu'elle refroidisse, avant que même le roi Co se révolte. À défaut d'être quelqu'un, tu seras quelque chose dont tu causeras bien haut en faisant de grands gestes modestes. Tu seras une fonction écrite en gras sur une carte de visite. Tu écouteras les compliments, le rouge au front, baissant la tête, couronnant de tes cheveux blancs le pavillon de ta retraite. Et tu diras merci, ravalant ta rancœur, car on t'aura appris qu'on ne parle jamais la bouche pleine. Tu seras un valet modèle, fidèle, un peu putain bien sûr, mais faut bien vivre. Et l'on t'entendra dire, mon petit, tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu comprendras plus tard. Il faut plier parfois, comme j'ai plié toujours. Et tu feras le compte de tes amis sur le doigt qu'il te restera d'une vie de labeur avec des gens sévères, mais juste. Et l'on t'emportera plié, voûté, coudé dans une boîte en bois, comme dans le ventre d'une mère, suivi des enfants de ta femme. Voilà pourquoi, mon fils, ta mère prend la pilule.
Eh bien, c'était Jean Jonas. C'est quand même des chansons qui ont plus d'une trentaine d'années. C'est pris donc sur ce coffret de 4 CD qui est toujours disponible, oui, à Publico, par exemple. La librairie du monde libertaire, voilà. On va continuer donc avec ce qui s'est passé là au mois de mars 1871, mercredi 8 mars, comité central. Le peuple de Paris veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Plus d'armée permanente, mais la nation tout entière armée. Ah bah oui, mais là ça retombe à 1793. Voilà ce que déclare Thiers. Devant les parlementaires, hein, devant les députés, c'est l'enquête parlementaire, donc c'est en août 1871. On dit aux Parisiens, le gouvernement s'est trompé en laissant rentrer les troupes allemandes dans Paris. Mais quant à nous, il faut nous défendre. Il y avait au parc Monceau beaucoup d'artillerie. Il faut la ramener dans Paris, leur dit-on, de peur que les Prussiens ne la prennent. Ils la ramenèrent sur les hauteurs de Montmartre et à partir de ce moment, le comité central commanda en maître. Alors, c'est dans cette phrase, il y a plusieurs choses, hein, évidemment. Il y a Thiers qui fait le constat que bah, là, c'est fini. Hein, c'est à partir du moment où la garde nationale considère que l'artillerie lui appartient, ils vont être à armes égales avec l'armée dite de métier. Voilà. Mais il y a aussi cette affaire de deux dénominations, hein, puisque il est question donc des Allemands, les troupes allemandes dans Paris, Et puis, pratiquement dans la même phrase, de peur que les Prussiens ne la prennent. Il s'agit quand même de la même chose. Hein. Voilà. Victor Hugo est à Bordeaux. Il monte à la tribune de l'Assemblée pour défendre Giuseppe Garibaldi, qui a été élu par 4 départements, mais les députés refusent de valider donc son élection. Déjà, ça fera une place de plus pour eux, hein, bien sûr. Et puis, c'est surtout qu'il est italien. Et oui, il n'est pas français. Hein. Et alors, le vicomte de Lorgerie il coupe la parole à Victor Hugo. L'Assemblée refuse la parole à monsieur Victor Hugo parce qu'il ne parle pas français. Alors évidemment, bon, ça fait quand même assez curieux, mais c'est surtout parce que Victor Hugo n'est pas nationaliste. Bah oui, eh ben oui, les États-Unis d'Europe, Victor Hugo, c'était aussi sa grande idée, hein, voilà. Donc Victor Hugo ne parle pas français. Delescluze suit à la tribune. Il est conspué quand il demande la mise en accusation des membres du gouvernement de la Défense nationale. Eh oui, Delescluze a été élu député. Des troupes nouvelles arrivent à Paris. Thiers donc dit « Choisis à la fourchette, car toutes nos troupes sont dans un état pitoyable. » Donc là, il y a un tri sévère qui est fait. Hein. Ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des soldats. Hein. Encore que la différence est assez difficile à saisir. Mais bon, dans l'idée de la République, l'armée est défensive. Hein. Le mercenaire n'a pas sa place. Hein. Mais bon, dans les faits, le métier d'un militaire, c'est de tuer. Le métier d'un mercenaire, c'est de tuer. Alors, on ne voit pas trop la différence. Vinoy reprend espoir. Et voilà ce qu'il dit pour commencer son action offensive contre l'émeute. Et oui, il commence à avoir des soldats là, bien montés contre les Parisiens. Première tentative d'Aurel de Paladine pour récupérer les 171 canons qui sont parqués à Montmartre. Les soldats de l'armée y vont, mais ils pactisent avec les gardes nationaux. Les gardes nationaux du 13e refusent le commandement de d'Aurel de Paladine et élisent tout de suite leur général. C'est Duval. Alors Duval, bah oui, Duval, il va y avoir, lui, ça va mal se terminer, puisque il va être fusillé sur ordre de Vinoy à Villacoublay, alors qu'il s'était constitué prisonnier. Et donc ça, c'est le 4 avril. Duval va s'adjoindre Pathé et installe son état-major au 76 avenue d'Italie. Cherchez pas, ça n'existe plus. Le 11e conseil de guerre siège au Cherche-Midi, et donc c'est pour juger l'affaire du 31 octobre. Et ça va durer donc jusqu'au 11 mars. Jules Vallès écrit « Le 31 octobre passera devant un tribunal de soldats. Les officiers d'une armée prisonnière jugeront des hommes libres. » Alors évidemment, dire ça à un conseil de guerre, donc des militaires qui jugent, ça pose quand même quelques problèmes. Hein. Voilà. Le Conseil fédéral de l'international accepte de discuter de la question des canons le soir à la Corderie, entre les chambres fédérales et le comité central républicain des 20 arrondissements. Qu'est-ce qu'on va faire des canons? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les rend? Jeudi 9 mars, à Bordeaux, l'Assemblée charge 15 commissaires de proposer une nouvelle ville pour le gouvernement. Et donc, on va entamer, donc les députés entament les provocations. Dufort, qui est le ministre de la Justice de cette époque, voilà ce qu'il propose. Au nom du peuple français, article 1er, les effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 et venant à échéance le 12 avril prochain ne jouiront d'aucune prorogation. Alors, bon, on est le 9 mars, hein, mais c'est la première loi qui sera votée, donc qui sera votée par l'Assemblée qui s'installe à Versailles. Le père Duchesne, c'est le numéro 4. Donc le 9 mars, jeudi 9 mars, ça correspond au 19 Ventose en 79. Eh oui, le calendrier dit républicain. Voici donc ce qui a fait loucher le père Duchesne dans ce foutu décret qui a été présenté à l'Assemblée relativement au billet de commerce par ce grand gueusard de Dufort qui a traîné ses guettes dans les antichambres de tous les gouvernements présents, passés, et futur. Mais foutre, c'est inouï. On veut donc ruiner le commerce et que les petits boutiquiers mettent la clé sous la porte et s'en aillent casser des pierres sur les grandes routes. Et en fait, c'est bien ce qui va se passer. Les 7e, 8e et 16e bataillons de mobiles de la Seine fraternisent avec la garde nationale. Le comité central intervient pour faire libérer les officiers des mobiles qui, eux, sont retenus en otage parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la fraternisation. La municipalité se plaint des garibaldiens, des francs-tireurs et puis autres troupes irrégulières qui exigent des billets de logement pour habiter chez l'habitant. Hein. Ils vont pas coucher dehors. Hein. Les troupes cantonnées dans les lycées Descartes et Rollin quittent Paris. Eugène Varlin demande aux gardes nationaux du 193e bataillon qu'il avait commandé de récupérer les canons qui sont parqués à la poudrière du Luxembourg. Les gardes nationaux refusent. Donc on voit que on commandait, on était élu, mais ça discutait quand même. Hein. C'était c'est la discipline, la force des armées, pas pour la garde nationale. Hein. 10 mars, nous sommes le vendredi. Les mobiles de Saône-et-Loire mettent le feu à leur cantonnement. C'était à Grenelle. La plupart des marins ont regagné leur casernement dans les ports. Alors les marins sont cotés au niveau artillerie, puisque ce sont eux qui manient le mieux les canons. Ce sont des pointeurs, en principe, ils ont appris à pointer les canons et ils font mouche. Hein. Donc évidemment, les soldats marins sont très très prisés des deux côtés. Hein. Clémenceau, député maire de Montmartre, donc qui est à Paris, on l'a vu là pour faire une enquête, fait des pressions pour que les canons du parc polonais, donc le parc Saint-Pierre, hein, pris par les gardes nationaux, soient rendus à l'armée. Il se met d'accord avec Dorel de Paladine, mais là ça marche pas. Des attelages de l'armée attendent place de la Trinité, mais le comité central s'oppose au transfert. Donc là, il y a rupture entre Clémenceau, donc maire élu du 13e de Montmartre, hein, et donc le comité central de la garde nationale. Ça y est, là, il commence à y avoir rupture entre les révolutionnaires et puis l'opportuniste. Hein. À Bordeaux, Louis Blanc propose le transfert de l'Assemblée à Paris. Alors là, le monarchiste Belcastel lui répond. La France sait que 10 fois en 80 ans, Paris lui a expédié des gouvernements tout faits. Par le télégraphe, que Paris est le chef-lieu de la révolte organisée. Nous ne voulons pas recevoir tous les 15 jours des révolutions par le chemin de fer et le télégraphe. Donc c'est fini, Paris n'est plus capitale. Hein. Et Le Flot, aurait déclaré à Thiers, et ça c'est pris dans l'enquête parlementaire, il n'est pas possible, à la distance où vous êtes, de livrer bataille à cette foule furieuse. L'Assemblée est trop loin à Bordeaux. Il faut la rapprocher de Paris. Alors, évidemment, Fontainebleau, ça serait bien, mais c'est quand même assez loin. Et puis, c'est lourd aussi, Fontainebleau, hein, parce qu'il y a eu les adieux. Donc, il y en a qui sont pas tout à fait d'accord. Donc, Versailles, c'est plus près de Paris. Évidemment, c'est plus risqué, c'est plus près. Mais ça sera quand même plus facile. On peut prendre ce qu'écrit Henri Malo, pas confondre avec Hector Malo. Henri Malo a été le conservateur de la bibliothèque d'Adolphe Thiers. Il a écrit donc une biographie assez bien documentée sur Adolphe Thiers. Le discours qu'il prononce, Adolphe Thiers, à ce sujet, est sa plus belle manœuvre, son Austerlitz. Et voilà ce que déclare Thiers, c'est une réorganisation. Si nous y réussissons, elle se fera sous la forme de la République et à son profit. Et alors l'Assemblée, flattée par Thiers, les députés donc vont établir ce qui s'appelle le pacte de Bordeaux. C'est-à-dire que la République n'est admise qu'à titre provisoire. Et là, les monarchistes vont voter avec les bonapartistes. Bah oui, les monarchistes espèrent toujours une monarchie parlementaire. Hein. Bah oui, ça ressemble à une République, bien sûr. Hein. 461 voix pour, 104 contre, sur les 581 votants. Quand on fait le compte, il semblerait qu'il y en a 16 qui se sont abstenus, des indécis. Adolphe Thiers télégraphie aussitôt à Paris. Versailles adopté. À une immense majorité, malgré la commission qui demandait Fontainebleau. Demain, samedi, dernière séance à Bordeaux. Et alors Thiers conclut, jamais assemblée ne reçut de pouvoir plus étendu. Vous pourriez même, si vous le vouliez, faire une constitution, c'est-à-dire établir la République. Lissagaray écrira, l'opération fut conduite avec l'habileté, la suite, la discipline cléricale, légitimiste, orléaniste. Je vais y arriver. Légitimiste, orléaniste, bonapartiste, divisé sous le nom du monarque, avait accepté un compromis imaginé par Thiers. Par égal au pouvoir, ce qu'on appela le pacte de Bordeaux, d'ailleurs contre Paris, il ne pouvait y avoir de division. Ah bah oui, on arrive pratiquement tout de suite dans cette idée de revanche. Il y a une revanche à prendre donc sur les Allemands, bien sûr, mais là, il y a une revanche à prendre sur Paris. Ah, c'est un ciment fédérateur, hein, le bouc émissaire. Ah là là, ça marche à tous les coups. Et Thiers déclara au général Suzanne, qui assure l'intérim donc du ministère de la guerre à Paris, « Si on vous attaque, soyez prompt et vigoureux, et écrasez les misérables qui veulent faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère. Si vous n'êtes pas provoqué, attendez. L'effet moral des concentrations de forces, donc de l'armée, sur les fauteurs de désordre. Il faut avoir l'œil sur la banque, Banque de France, et ce serait l'un des désordres qu'il ne faudrait souffrir à aucun prix. » Palikao et Bazaine offrent leur service. Guizot ira même jusqu'à proposer son fils. Ben oui, parce qu'il est vieux, le père Guizot. Mais quand même, eh oui, il a des descendants. Hein. Le népotisme, ça existe. Hein. Thiers se donne 3 jours. Samedi 18 mars. Récupérer les 417 canons et mitrailleuses des quartiers populaires de Paris. Donc évidemment, Montmartre, Belleville, Butte-Chaumont, Place des Vosges aussi, éventuellement. Dimanche 19, écraser l'insurrection. Lundi 20 mars, réception, le jour de l'installation de l'Assemblée à Versailles au théâtre Louis XV, étant reçu comme le vainqueur de la peste rouge, puisque c'est son mot, la peste rouge. Voilà. Donc lui, s'était donné 3 jours. Et Thiers affirme à Jules Trochu, et c'est Trochu qui l'écrit dans ses mémoires posthumes, ces 2 volumes. Alors Trochu avait bien demandé ce que ça soit publié une fois qu'il serait mort, ça a été publié à sa mort. Ce qu'il écrit dedans, il règle vraiment ses comptes. Hein. Voilà. Les insurgés qui se sont établis à Montmartre, avec les canons qu'ils ont pris, vont nous les rendre de bonne grâce. C'est ce que Thiers aurait déclaré à Jules Trochu. On voit que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Le président de séance, à Bordeaux, lit la lettre de démission de Victor Hugo. 8 mars. Je vais vous satisfaire, messieurs. Il y a 3 semaines, l'Assemblée a refusé d'entendre Garibaldi. Aujourd'hui, elle refuse de m'entendre. Cela suffit, je donne ma démission. 2e vague de démission, donc Delescluze, Benoît Malon, Arthur Ranc, Razouet, Félix Pia, Henri Rochefort, Cournet, qui ont été élus le 8 février, démissionnent ou confirment leur démission de mandat de député. Tolin, pourtant affilié à l'international, se maintient, tout comme Louis Blanc, ex-48-art. Alors Tolin, bon, il y en a qui lui en veulent. Quand on lit les procès-verbaux, des séances de l'Assemblée nationale qui siège à Versailles. Ça, c'est dans le journal officiel qui paraît à Versailles. Alors, il est très dur à trouver. Hein. Je crois pas qu'il soit à l'heure actuelle en consultation sur Gallica. Enfin, toujours est-il que j'ai les numéros de cette époque, hein, de 100 numéros autour de cette période. Tolin prenait la parole à l'Assemblée nationale pendant la Commune. Hein. Et à chaque fois, il se faisait vraiment massacrer verbalement. Louis Blanc était vraiment crapuleux, puisque Louis Blanc a même refusé de recevoir des comités de conciliation de la Commune au motif que lui était élu, eux n'étaient pas élus. Donc lui, comme élu, n'avait pas à discuter avec des non-élus. Voilà, ça c'est Louis Blanc. La proposition donc de Millière de proroger le moratoire sur les loyers est rejetée. Et la loi Dufort, donc rendant exigibles les traites, va être votée. Voilà ce qu'écrit Maxime Ducamp. L'Assemblée adopta une loi maladroite qui prouve à quel point elle ignorait les souffrances du commerce parisien, ou combien elle était résolue à n'en point tenir compte. L'Assemblée voulut que les billets échus le 13 novembre fussent exigibles le 13 mars. Et alors, ces décisions vont sceller l'alliance des classes moyennes avec les prolétaires. Les commerçants et artisans parisiens qui ont été privés de revenus par le siège sont acculés à la faillite. Le paiement immédiat des échéances, donc du 13 août au 13 novembre, qui avait été remis le 9 octobre, donc on le voit, sont exigibles le 13 mars et avec intérêt. Et entre le 13 mars et le 17 mars, 150 000 protêts vont être dressés, signifiant autant de faillites. Il en sera de même pour les loyers. Donc évidemment, le 18 mars, bah oui, c'est fini. Les huissiers vont plus pouvoir instrumenter. Voilà. Donc on comprend pourquoi le 18 mars a été aussi, de ce côté-là, un mouvement très populaire à Paris. Lisa Garay, donc dans son Histoire de la Commune, ce que les périls du siège n'avaient pu, l'Assemblée le fit. L'union de la petite bourgeoisie avec le prolétariat. L'éloignement de l'Assemblée froissait son orgueil, s'alarmait pour ses affaires. L'immense majorité de Paris vit s'organiser une défense parisienne. Et alors, l'Assemblée donc va s'ajourner jusqu'au 20 mars, où les séances sont censées reprendre donc à Versailles. À Paris, au Tivoli Vauxhall, c'est la troisième réunion des délégués de la guerre nationale. Elle est présidée par l'internationaliste Pindy. Arnold, qui fait toujours fonction de secrétaire, lit le rapport du comité central. Il a fallu que les dernières illusions s'évanouissent et qu'on s'aperçût du terrible travail opéré par la réaction. Il a fallu que tous les postes du gouvernement fussent accaparés par les hommes les plus notoirement hostiles à la République pour que cette population s'aperçut enfin qu'elle n'avait plus à compter que sur elle-même. Voilà pourquoi, citoyens, nous sommes devenus quelque chose. Ce que nous sommes, les événements l'ont fait. Nous sommes la barrière inexorable élevée contre toute tentative de renversement de la République. Le périlleux honneur de la défendre nous est échu. Nous ne faillirons pas. La République française d'abord, puis la République universelle. Plus d'armées permanentes, mais la nation tout entière armée. Plus d'armées, plus d'oppression, d'esclavage ou de dictature d'aucune sorte, mais des citoyens libres se gouvernant à leur guise. Là, on commence à approcher de la notion d'individu. Et apparaît, là, encore confirmé, donc, dans cette structure, le mot « république universelle ». Et ensuite, donc, Arnold répond au ministre de l'Intérieur, Picard, qui a prévenu Courty. Courty, donc, c'est lui qui a lancé le mouvement. La première réunion, c'est lui qui l'avait lancé. Que les meneurs risquaient leur tête. Et voilà Arnold ce qu'il répond. Le rétablissement de l'échafaud politique. Fort et fier du mandat que vous nous avez confié, armés de notre droit, nous ferons notre devoir sans crainte et sans faiblesse. Sûr que, si l'on s'emparait de nos personnes, l'institution ne peut périr et que de suite, il surgirait derrière nous des hommes virils pour relever le drapeau arraché de nos mains. Et alors Courty, qui est au point de départ donc de cette fédération, qui n'en est pas encore une, mais qui va le devenir, qui avait promis de rendre les canons, est désavoué par le comité central. Donc évidemment, Courty, on ne reverra plus donc son nom, on verra plus son nom apparaître officiellement. Et puis il y a le serment aussi de la Fédération des bataillons de la garde nationale. Plus de rois, plus de maîtres, plus de chefs imposés, mais des agents constamment responsables et révocables à tous les degrés du pouvoir. Et puis, ce vendredi 10 mars, Arthur Rimbaud, qui était arrivé à Paris, oui, chez André Gide, quitte Paris, y rejoint Douai. Des gardes nationaux vont aussi planter un drapeau rouge à la Charité-sur-Loire. Le 11 mars, on est un samedi. Les Allemands évacuent les forts du Sud, les forts de la périphérie, comme c'était prévu. Vinoy maintient un état de siège à Paris, qui pourtant devait être levé sitôt les Allemands partis. C'est quand même important, puisque la justice est rendue par les conseils de guerre et est donc sans appel. Et voilà donc une décision d'un conseil de guerre, Blanqui. Auguste Louis Blanqui, homme de lettres, âgé de 65 ans, demeurant à Paris, rue du Temple, 191, chez Cléret, est condamné à mort. Edmond Levrault, Cyril, Gustave Flourens sont aussi condamnés à mort par contumace. Et ça donc c'est par le 11e conseil de guerre. Et c'est pour leur participation à la journée du 31 octobre 1870. Le docteur Goupy, lui, prend 2 ans de prison. Jules Vallès, qui s'est présenté en prévenu libre, écope de 6 mois de prison. Et voilà ce qu'écrit Jules Vallès. Le Ferry s'était montré enragé pourtant, crossant les vaincus et jurant sur l'honneur qu'il m'avait parfaitement reconnu. Donc c'est Jules Vallès qui l'écrit dans L'Insurgé. Joly, Jatelard, Ranvier, Boer, Roger et Eudes, eux, sont acquittés. Alors Blanqui va être arrêté le 17 mars 1871 du côté de Figeac, hein, sur ordre d'Adolphe Thiers. On pourra épiloguer donc sur cette arrestation d'Auguste Blanqui. Florence, lui, sera exécuté à Chatou, donc le 3 avril, par ce gendarme des Marais, qui mettra à exécution donc cette décision du Conseil de guerre. Vinoy, ce 11 mars, interdit 6 journaux, et voilà ce qu'il dit. Attendu qu'il n'y a pas de gouvernement libre possible lorsque, chaque jour, impunément, des feuilles publiques répandues à profusion prêchent la sédition et la désobéissance aux lois. Article 1er. La publication des journaux. Le Vengeur. Le cri du peuple, le mot d'ordre, le père du chêne, la caricature, la bouche de fer est et demeure suspendue. Alors, la bouche de fer, c'est Pascal Grouchet, il n'y a eu que 2 numéros, ne reparaîtra pas. La caricature du dessinateur Pilotel ne reparaîtra qu'une seule fois, le 21 mars. Le cri du peuple, Jules Vallès, qui reparaît dès le 21 mars. Le mot d'ordre de Henri Rochefort, lui, reparaîtra le 1er avril, à Paris, bien sûr, tout ça. Le Vengeur de Félix Piat reparaît le 30 mars. Le Père Duchesne, donc du 18 Ventose en 79, reparaît le 21 mars. Donc, c'est la date du calendrier donc républicain, bien sûr. Pour les journalistes modérés de l'opinion nationale, le délit de presse, s'il existe, est du ressort de la justice et non de l'armée. Sinon, le moindre critique deviendra un crime contre la société, contre l'ordre établi. Et alors, on peut prendre aussi ce qu'écrit Raymond Manévy. Cet arrêt intempestif concernant la presse, bien que n'ayant guère retenu l'intention des historiens, est l'une des causes de l'insurrection du 18 mars. Bon, chacun donne son explication. Ça peut en être une. Et puis il y a leur appel. Et alors, le journal Leur Appel, lui, n'est pas interdit, mais au risque d'une interdiction, il accueille Rochefort. Eh ben oui, le journal de Rochefort, le mot d'ordre, louchouk, interdit. Et alors voilà ce qu'écrit Rochefort dans Leur Appel. C'est la première victoire du général Vinoy. Sachons la subir, comme nous avons été obligés de subir les défaites et les capitulations de ce vieux sénateur. Alors après le 18 mars, les journaux supprimés vont reparaître à Paris. Leur Appel va être relégué derrière le mot d'ordre, le combat qui reparaît, hein, bien sûr. Le 30 mars, Leur Appel se déclare officiellement pour Paris. Le 11 mai, Auguste Vacry, donc de la famille Hugo, signe. Pendant que Paris achève la libération des prolétaires, Londres proclame les droits de la femme. Et par ce travail simultané des deux grandes villes, la famille humaine se complète et se constitue. Tous les genres de castes seront brisés et les sexes s'égaliseront comme les classes, car il n'y a qu'un faussaire qui ait pu signer égalité, un état de choses où la moitié du genre humain est la servante de l'autre moitié. Et alors, ce journal va suspendre sa publication avec le dernier numéro qui est imprimé sur le sol recto, le verso est blanc, après l'appel de Victor Hugo, c'est en date du 23 mai 1871, donc évidemment c'est la semaine sanglante. Voilà ce qu'écrit Victor Hugo. Paris et la France. Il y a plus de civilisation dans la Convention et plus de révolution dans la Commune. Les violences que fait la Commune à la Convention ressemblent aux douleurs de l'enfantement. Un nouveau genre humain, c'est quelque chose. Ne marchons donc pas trop. Qui nous donne ce résultat? Devant l'histoire, la révolution est un lever de lumière venu à son heure. La convention est une forme de nécessité, la commune est l'autre. La répression va s'abattre sur les rédacteurs du rappel. Le rappel va quand même reparaître le 1er novembre 1871. Il va être suspendu par Adolphe Thiers, puis il va reparaître le 1er mars 1872 et il va subir plusieurs interdictions jusqu'à sa disparition finale le 30 septembre 1928. Mais là, on le voit, là, les 6 journaux donc d'opposition révolutionnaire vont être remplacés par les affiches. Mais alors là, ça va être encore plus virulent, puisque pratiquement, il n'y a pas de structure responsable. Et le comité central fait placarder une affiche. Soldats, enfants du peuple, les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré tout notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Que veut le peuple de Paris? Il veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Il veut que l'armée active soit renvoyée dans ses foyers pour rendre au plus vite les cœurs à la famille et les bras au travail. Et Vinoy, le général bonapartiste, va recommander une surveillance accrue pour le 12 mars. Et il l'écrit donc dans son bouquin « L'armistice et la commune » qui va paraître en 1872, hein, je crois. En effet, Paris peut être excité encore davantage par trois causes qui touchent directement certaines parties de la population à différents points de vue. La résolution que vient de prendre l'Assemblée de siéger à Versailles. La condamnation à mort de Blanqui et de Flourens. Et enfin, la suppression de six journaux qui s'étaient prononcés ouvertement contre le gouvernement régulier et pour le parti de l'émeute. On voit que Vinoy oublie cette affaire donc d'échéance. Jules Trochu, qui s'inquiète de la situation à Paris, est reçu par Adolphe Thiers, qui projette de changer les troupes de Paris par celles, et c'est lui qui le dit, empruntées à l'armée du général Chanzy, qui n'a pas eu avec les foules parisiennes en délire les contacts dont vous me montrez les effets. Alors même où vous m'exprimez ces préoccupations, je reçois par cette dépêche l'avis que les insurgés de Paris, qui se sont établis à Montmartre avec les canons qu'ils nous ont pris, vont nous les rendre de bonne grâce. Ils sont encore trompés. 12 mars, dimanche, Jules Favre file à Ferrières pour s'entendre avec l'autorité prussienne sur une foule de détails. Là, il ne va pas à Versailles, il va à Ferrières. Vinoy, le comité central, fait placarder sur les murs de Paris une grande affiche rouge qui porte la signature de ses membres et qui n'est qu'une longue excitation à la révolte, à la désertion, à l'adresse de l'armée régulière. Le préfet de police et les chefs de secteur font arracher partout cette affiche, mais très souvent, l'opération est dangereuse à cause des obstacles qui vient mettre la foule. Donc c'est cette fameuse affiche du comité central qui a été donc mise la veille. Le 119 de ligne occupe Versailles, que les Allemands viennent de quitter. Et Louise Michel, en principe, c'est autour de ce 12 mars, dimanche 12 mars, qui se fait enrôler au 61e bataillon de marche de la garde nationale. Donc c'est un des bataillons de la garde nationale de Montmartre. Il a son siège au 6 rue des Rosiers. Il y a aussi une ambulance à côté. Et Louise Michel sera plus souvent à l'ambulance que du côté des bataillons. Le comité de la rue des Rosiers s'oppose, lui, à la restitution des 171 canons donc du parc Saint-Pierre, parc polonais, pourtant négocié par Clémenceau avec Dorel de Paladine. Et le journal anglais, The Situation, publie une protestation de Napoléon III. Bah oui, il vient d'arriver en Angleterre, donc tout de suite, hop, il arrive. 13 mars, on est lundi. Chanzy, général en chef de la 2e armée. Voilà ce qu'il déclare. Le traité ratifié le 1er mai par l'Assemblée nationale met fin à la guerre. Les armées sont dissoutes. Donc on voit que Thiers veut récupérer son armée, parce qu'en fait, elle n'a pas fréquenté encore les Parisiens. Chanzy n'est pas tout à fait d'accord, parce que lui, il dissout son armée. Les régiments de marche créés pendant la guerre vont être fusionnés avec les régiments de numéros correspondants qui rentrent de captivité. À Paris, la police est impuissante à empêcher la démolition des baraques inoccupées de l'armée, et aussi, surtout, la récupération des matériaux, parce qu'il fait encore froid, il y a du bois hein, pour se chauffer. Le journal L'Avant-Garde, sur la suppression des journaux, voilà ce qu'on peut lire. Il décrète, dans son omnipotence, que nul journal traitant de matière économico-sociale ne pourra paraître avant la levée de l'état de siège. Instruisez, éclairez, ne frappez pas. L'état de siège vous confère un pouvoir dictatorial. Gardez-vous d'en user. On ne manquera pas de crier à la trahison, à la réaction. Sous chaque acte d'autorité, fût-il légitime, on verra un complot contre les libertés. L'instinct populaire ne se trompe pas. Il pressent une catastrophe. Et alors, c'est pris dans l'édition du soir du Moniteur de la guerre, donc qui paraît entre le 27 septembre 1870 et le 27 mai 1871. Maxime Lisbonne, ah, le d'Artagnan de la Commune, est reçu par Picard, ministre de l'Intérieur. C'est au sujet de la pension de son père. Alors, c'est peut-être, bon, officiellement c'est ça, mais ça m'étonnerait que le ministre reçoive que pour ça. Cotte, qui est préfet du Var, veut se faire remettre 20 000 cartouches par des magasins militaires. Il est aussitôt destitué. Et dans les carnets de Victor Hugo, voilà ce que l'on peut lire. Et on voit la hiérarchie de valeurs de Victor Hugo. Visite de ma jolie hôtesse, Madame Porte, qui tous les matins m'envoie un bouquet de violettes par sa petite fille. Elle a 10 ans, elle s'appelle Léonie. 7 heures du soir, Charles est mort. C'est son fils. Donc on voit, c'est sur la même ligne, hein. C'est sur la même page. C'est Victor Hugo. C'est aussi donc ce 13 mars la signature du traité de Londres. Donc c'est abrogation des articles 11, 13 et 14 du traité de Paris du 30 mars 1856. Et alors, c'est autour du principe de la fermeture des détroits C'est maintenu, mais avec la possibilité pour le sultan de les ouvrir en temps de paix aux navires de guerre des puissances alliées et amies. Et alors évidemment, tout le monde disait, mais la France n'est pas représentée au traité de Londres, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, bah voilà, ça y est, c'est fini, c'est signé. 14 mars, on est un mardi. Thiers arrive à Versailles. Il a envoyé l'armée déjà pour nettoyer. Il arrive. À Paris, au ministère de l'Intérieur, vive discussion d'une délégation des maires de France qui proteste contre la suppression donc de ces 6 journaux. 2 officiers allemands, Welch et Haussmann, rentrés dans Paris, sont faits prisonniers. Ils sont conduits au comité central de la garde nationale, qui veut les échanger contre un certain sous-main du 147e bataillon de la garde nationale, qui est retenu prisonnier par les Allemands. Pourquoi ? Ben, il avait tenté simplement de tuer un factionnaire allemand au fort d'Aubervilliers. Et malgré les demandes d'Aurel de Paladine, le comité va refuser de libérer donc ces 2 officiers allemands. Le lendemain, De Fabrice, qui est le commandant en chef de l'armée d'occupation allemande, les réclame à Jules Favre. Et ils vont être libérés le lendemain à la Villette. Donc il doit y avoir, on pourrait faire toute une émission sur les tractations qui ont eu lieu, parce que c'est pas si simple que ça. Le général Le Flo, qui est le ministre de la Garde à l'époque, adresse ses félicitations à la Garde mobile, qui vient d'être licenciée. Maintenant vous retournez dans vos foyers, allez retourner derrière votre charrue et ça ira très bien. L'armée évacue le fort d'Ivry, les munitions donc du fort du Sud. Mais les gardes nationaux du 101e bataillon interceptent le dernier fourgon du convoi. Et oui, il y a peut-être les armes, mais il faut aussi les munitions pour mettre dans les fusils. Maxime Lisbonne est élu membre du comité central pour le 10e arrondissement. Et donc ça se passe à la salle, au numéro 8 de la rue Dieu. Mais oui, c'est le nom du propriétaire hein, du lotissement qui c'est pas du tout une référence divine. 15 mars, on est mercredi. Thiers s'installe donc à Paris, revient au ministère des Affaires étrangères, il est au Quai d'Orsay. Tous les régiments de mobiles licenciés ont quitté Paris. Le licenciement de l'armée de Paris, commencé le 3 mars, est terminé. Il ne reste plus officiellement que les 12 000 soldats de la division Pharaon. Mais alors, triés à la fourchette. Hein. Là, ce sont vraiment des mercenaires. La garde nationale n'est plus contrôlée par le gouvernement. Au Tivoli Vauxhall, 16 rue de la Douane, 4e réunion. 1325 délégués, représentant 215 bataillons de la garde nationale sur les 260, élisent les 30 membres du comité central de la garde nationale. Giuseppe Garibaldi, absent et non candidat, est élu à la tête de la garde nationale. Sur les 30, 13 membres vont être élus à la commune. Donc le 26 mars, donc on voit là plus d'un tiers. Du comité provisoire élu le 15 février, il ne reste que Arnold. Et voilà ce qu'écrit Lisa Garay. C'est le comité central régulier qui entrera dans l'hôtel de ville. Les hommes en vedette n'avaient pas brillé les suffrages. La corderie, les blanquistes aussi, ne voulaient pas admettre que cette fédération, ce comité, ces inconnus, fussent une force. Lullier est nommé commandant de l'artillerie. Et alors, il y a aussi cette motion qui est adoptée. Tout combattant pour la liberté portera le nom de fédéré. Il y a aussi une déclaration. En présence de l'ennemi intérieur qui déjà se signale par des actes d'hostilité évidentes, la fédération affirme sa foi dans le seul régime sauveur pour notre patrie et l'humanité entière, la République démocratique et sociale. Donc on voit là, on revient à la République démocratique et sociale, alors qu'il avait été nommé déjà l'assemblage de mots République universelle. Florence dans Paris livré. C'est un bouquin absolument introuvable qui a été publié à Paris, mis en vente à Paris le 3 avril 1871, juste le jour où Florence a été assassinée par le gendarme des Marais. La garde nationale devait jouer dans le plan de Trochu le rôle qu'ont joué en 1848 les ateliers nationaux. Et Thiers à l'enquête parlementaire, la garde nationale n'existait plus que comme armée ennemie. Le moratoire sur les loyers qui datait du 13 août est annulé par la loi du fort. Et donc là, les petits bourgeois non propriétaires hein, vont soutenir les révolutionnaires. Bah, on peut se poser la question si c'est pas le but recherché par Adolphe Thiers. Voici ce qu'écrit Le Pelletier. Peut-être les plus déterminés de ces mécontents y participeraient, motivant par conséquent l'intervention armée, justifiant la répression. La garde de la cartoucherie de la rue de Vanves est confiée à une compagnie d'infanterie. Le train ramenant de Mayence, les 12 000 chasse-pots donnés entre eux aux Allemands le 19 février est stoppé à Nogent, sur Marne, et les fusils sont stockés au fort de Vincennes, pour éviter Paris. Mais évidemment, Vincennes va tomber aux mains de la Commune. Le 16 mars, on est un jeudi, Valentin, qui est un général bonapartiste, ancien colonel de la garde de Paris, est nommé préfet de police. Il remplace Cresson. Cresson, eh oui, il faisait distribuer les fonds secrets par ses commissaires à certaines victimes des bombardements ou à des miséreux. Donc évidemment, là, il y a eu problème. Et puis on est jeudi, c'est la mi-carême. Vinoy interdit tout déguisement. On peut prendre ce qui est écrit dans le journal de la Liberté. La grotesque armée des bataillons révolutionnaires continue de camper à Montmartre autour des canons conquis sur les artilleurs français. Le gouvernement ne trouve-t-il pas que ce carnaval démagogique se prolonge un peu trop dans le carême ? Donc on le comprend, le journal La Liberté est un journal parfaitement réactionnaire. Jules Vallès lance un nouveau journal, puisqu'on y a supprimé le Cri du Peuple, donc ah bah oui, il en lance un autre. Les soudards de l'état de siège ont biffé d'un trait de plume 6 feuilles socialistes. Donc les 6 journaux. Les camarades ont fait des pieds et des mains, et les voici, nous voici à la tête d'un tout petit canard. Le drapeau qui continuera, K1K, notre campagne révolutionnaire. De mon trou, j'envoie de la copie. Donc c'est pris dans l'insurgé. Et alors Jules Vallès défend Belleville, désigné à toutes les colères, à toutes les haines, et qu'on ferait volontiers échancrer par le canon prussien. C'est un pays où l'on aime à sentir près de soi son fusil, mais c'est un pays honnête où l'on travaille dur quand il y a de l'ouvrage et qu'on ne se fâche pas justement que quand la besogne manque ou que le déshonneur déborde. Et dans la nuit du 16 au 17 mars, le drapeau, journal qui remplace le Cri du Peuple, est saisi à l'imprimerie. Il peut même pas être, disons, vendu. 17 mars, Louise Michel adresse une lettre à Madame Paul Maurice. Protestation des citoyennes de Montmartre. Serons-nous trahis jusqu'à la fin ? Non, Montmartre ne demande pas à être désarmé. Et si ses pères, nos frères, nos sœurs, nos maris, dont l'indignation a égalé la nôtre en lisant cette chose dans les journaux, rendaient les pièces de canon déposées sur la butte pour la défense de la République, nous, citoyennes, nous les défendrons jusqu'à la mort, comme on défend le dernier rempart de l'honneur trahi de la nation vendue. Vive la République ! Et c'est signé pour les citoyennes de Montmartre, la secrétaire Louise Michel. Alors, Paul Maurice, après le coup d'État du 2 décembre 1851, donc Victor Hugo quitte la France, et c'est Paul Maurice donc qui va s'occuper donc de ses intérêts et publications. Il va être nommé par testament exécuteur donc de l'œuvre de Victor Hugo, avec évidemment Auguste Vacry et un certain Lefebvre. Paul Maurice donc va se charger de la publication des œuvres. Voilà. Et alors ça se termine là, et c'est lui aussi qui va donc ouvrir la maison de Victor Hugo et relayer donc toutes les mettre en ordre donc les collections. Et on voit que Louise Michel s'adresse à l'épouse donc de ce Paul Maurice. Voilà, elle s'adresse pas là directement à Victor Hugo. Eh bien, c'était l'évocation des partageux de la Commune autour de Louise Michel. On s'est arrêté donc le 17 mars 1871. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera le 18 mars. Voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez vous procurer la carte d'auditeur de Radio Libertaire. Cela, bien sûr, à la librairie Publico, qui se trouve au 145 de la rue Amelot. Voilà. À Paris. Vous pouvez, bien sûr, aussi, donc, si vous nous entendez par Internet, glisser un chèque d'au moins 20 € dans une enveloppe, hein. Le chèque, c'est DMC. L'enveloppe, c'est Radio Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011, Paris, France. Ah oui, France, c'est pas par nationalisme, hein, mais c'est parce que Radio Libertaire est relié donc sur Internet. Les émissions sont mises en mémoire pour la semaine. Donc vous pouvez les réécouter au fil de la semaine quand cela vous agrée. Ce n'est plus obligé d'être écouté en direct. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi les enregistrer, hein, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, peut-être quelques annonces. Le Salon du Livre Libertaire, c'est les 8 et 9 mai 2010 à l'espace d'animation des Blancs-Manteaux à Paris dans le 4e. L'entrée est à prix libre. Voilà. Et alors sur Radio Libertaire, il y aura des interviews en direct pendant donc les 2 jours. Voilà, donc ça se passe à Paris, à l'espace des Blancs-Manteaux, c'est dans le 4e.